parce qu'on habitait dans les monts du Lyonnais.
D'accord.
Et il y a toujours la guerre entre Saint-Étienne et Lyon.
Et oui.
Bah, tu sais, ça ne t'en parlera mieux que moi.
Je connais bien, étant ancien footeur, je connais bien aussi.
Voilà. donc voilà, un petit village perdu. Mon papa était agriculteur, donc on avait voilà, pas de voisins. Premier village à 7 km. Donc voilà, je prenais déjà très facilement le vélo ou mes jambes pour aller chez les copains. Parce que il n'y avait pas toujours pas mal de monde pour emmener partout.
Oui.
Pour se situer un petit peu. Voilà, après je suis partie faire mes études de médecine à Saint-Étienne.
D'accord.
Puis kiné. Et pendant toutes ces années, j'ai fait du basket. De l'âge de 8 ans, je pense, à 18 ans.
Ok. À bon niveau?
Alors, je jouais d'abord dans mon village et puis après, ouais, je suis allée jouer à Feur en cadette région, senior région aussi.
Ok.
Même en cadette, on jouait en France B. Donc, tu vois, le deuxième meilleur niveau en cadette.
Ouais.
Donc ça, c'est les années 15 ans, 16 ans, ouais, même plus jeune peut-être. Et puis après, j'ai assez vite joué en senior, en fait, j'étais surclassée.
Ok.
Et voilà, comme j'étais grande, et oui, j'étais sélectionnée dans les sélections. En fait, au basket, ça fonctionne département, la ligue, c'est régional.
Ouais.
Et j'ai jamais été en pôle France parce que je voulais pas.
Ok. Une raison particulière voilà. Ou...
Je sais pas trop à l'époque, c'était un peu... Moi, je faisais vraiment ça pour m'amuser. Et ouais, les sélections, c'était très stressant. C'était
ouais.
Pas du tout dans la compétition, en fait. C'était un jeu pour moi, le basket.
Ok.
Et okay. Je détestais aller en sélection.
D'accord.
Et ouais, en fait, mon club voulait que j'y aille parce que... Bon, après, c'est tout con, mais tu sais, ça te rapporte des points, en fait, pour le club. Et c'était quand même important pour pouvoir développer le club, d'avoir des athlètes qui sont en sélection
Ouais.
région France. Mais je détestais y aller.
Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté le basket? C'est la découverte de la course à pied ou pas du tout?
Non, en fait, c'est les études de médecine. Là, je me suis vraiment consacrée à mes études pendant un an. Enfin, médecine, c'est vraiment... Ouais, faut le vivre pour comprendre ce qui se passe. Tu fais que réviser tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ouais.
Donc, moi, en fait, là, mon seul sport que j'arrivais à faire, c'était partir courir.
Ouais.
Parce que ça me demandait pas de temps. J'avais quand même, j'essayais de faire 2-3 matchs dans l'année, mais en fait, dans un sport co, c'est très compliqué de louper les entraînements.
Ouais, bien
de,
sûr.
enfin, voilà, il faut jouer l'équipe, sinon tu joues pas du match et tu fais le banc.
Ouais.
Donc voilà, moi j'avais cette capacité quand même à pas m'entraîner et à jouer quand même au match, mais c'est pas respectueux de tes copines en fait. Donc très vite, quand je suis rentrée en école de kiné, j'ai essayé de cumuler les études de kiné. J'ai commencé l'athlétisme au Coquelicot 42 à Saint-Étienne.
Ok.
Donc c'était en 2010-2011, je dirais. Et je continue le basket, mais en fait j'ai très vite arrêté parce que je pouvais pas tout faire. Parce qu'il y avait aussi pas mal de soirées en kiné. On a pas mal fait la fête là pendant ces 3 ans de kiné. Et donc progressivement j'ai fait que de l'athlétisme au Coquelicot.
Ok.
42. Voilà.
Tu faisais c'est-à-dire tu donc du coup tu t'entraînais, tu t'as fait un peu les crosses, un peu la piste, un peu.
Ouais, j'ai commencé sur piste avec des 3000 mètres essentiellement. Je me suis quand
okay.
même assez vite spécialisée sur 3000 mètres parce qu'il y avait personne qui le faisait. Et en athlétisme, t'as les interclubs chaque année.
Ouais, ouais, bien sûr.
Voilà, la grosse fête sur 2 tours. Et donc, le Coquelicot, nous, on jouait dans le meilleur. On était dans les meilleures divisions françaises, quoi.
Ah ouais,
je sais
ok.
Comment ça s'appelait.
Ouais.
En élite A, je crois.
Ouais. D'accord.
Donc voilà, 3000 mètres, et puis forcément, on touche un peu à tout en athlée. Donc voilà, j'ai dû faire 1500, j'ai dû faire des premiers steeples, 10 km route. Effectivement, je suis allée en France une année ou deux.
Ok.
J'ai encore fait un semi-marathon il n'y a pas si longtemps, 2019, quand on est rentré en métropole, ouais, Marseille. Enfin voilà, j'ai exploré un peu, mais pas. Enfin, je faisais beaucoup les études et la fête aussi. Hein.
Ok.
Faut dire.
Et du coup, à quel moment t'as opéré un peu la transition entre la route, l'athlée pur, on va dire, et le trail? Quand t'es parti à La Réunion?
Alors déjà avant, j'ai vécu à Grenoble, sorti des études pendant 3 ans.
Ok.
Donc je faisais encore beaucoup d'athlétisme quand même à Grenoble parce qu'il y avait un bon club et ça me plaisait beaucoup. Mais bon, à Grenoble, on est forcément attiré un peu plus par les montagnes. Donc
C'est sûr.
voilà, là je commençais à découvrir un peu hors piste, quoi,
Ok.
tranquillement. Et c'est vraiment à La Réunion où là j'ai fait mes premiers. Enfin ouais, j'ai commencé la compétition en trail parce qu'à La Réunion, t'as très peu de courses sur piste et sur route, et très peu de concurrence sur piste et sur route, alors que tout le monde fait du trail, il y a quand même une grosse densité sur trail. Et puis comme on était là pour découvrir La Réunion, c'est idéal de prendre ses baskets parce que t'as plein d'endroits qui sont accessibles que à pied à La Réunion.
Et tu y allais dans le cadre de ton métier de kiné ou?
Ouais, on voulait bouger, on disait que c'était le moment. Et effectivement, en tant que kiné, tu peux pas. Moi, je voulais bouger à l'étranger, mais en fait, notre diplôme n'est pas reconnu à l'étranger. Donc, c'est la facilité, entre guillemets, de bouger quand même au niveau culturel, de changer un peu d'environnement, tout en pouvant travailler en ayant le système français, quoi.
Et donc,
Donc
vous
voilà, à
êtes.
la base c'était vraiment pour découvrir et puis finalement on était parti pour 6 mois, finalement on y est resté quasiment 3 ans
Ah oui.
et on a vécu une belle aventure là-bas, ouais, c'était chouette.
Et du coup, s'il y avait un moment, un petit déclic dans ta vie, qu'est-ce qui aurait fait que le trail, c'est vraiment devenu quelque chose, au-delà d'une simple pratique sportive, c'est vraiment devenu quelque chose qui est devenu un peu un mode de vie chez toi? Est-ce que tu aurais peut-être un moment précis ou...
Je dirais qu'il y a eu un premier déclic où là je me suis dit que j'allais vraiment, enfin pas arrêter la piste, mais presque. C'est en fait quand je suis arrivée à La Réunion, je m'étais inscrite à la Mascarène, un peu
Ouais.
sur un coup de tête. Et voilà, j'avais pas de préparation vraiment spécifique, c'était quand même 60 bornes, c'est quand même un bon chantier la Mascarène. Et en fait, je gagne la course. À ma plus grande surprise, en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, c'est pas possible. Il y a des filles de La Réunion qui s'entraînent toute l'année pour ça,
Ouais.
depuis des années. Elles étaient dégoûtées, en fait, que je gagne. Enfin, vraiment, les gens, ils n'étaient pas contents. Et voilà, et en fait, c'est ça qui m'a ouvert pas mal de portes, parce que directement, bah, j'ai intégré. Il y avait une team Salomon à La Réunion. Le commercial qui faisait un peu sa pute comme ça. Donc, nous a permis très vite de rencontrer beaucoup de monde. Et là-bas, c'est vraiment le sport national, le trail. Donc, je me suis assez vite dit que c'était, enfin, vraiment l'occasion de vivre à fond à La Réunion avec les gens qui adorent ça, quoi. Et de découvrir l'île de cette manière-là. Tout le monde fait du trail là-bas.
Oui.
C'est hallucinant que ce soit lundi, mardi, mercredi, en pleine journée. Tu trouves toujours, toujours du monde
Ok.
pour sortir courir avec toi. C'est juste génial, quoi. Et voilà, donc je dirais que ça y a eu un peu ce déclic sur la Mascareigne. Et puis après, ben, on a fait nos 3 ans à La Réunion. Et puis je pense que il me fallait un peu des courses en métropole pour confirmer. Et je dirais que l'autre déclic, ça a été ma 3e place à la CCC en 2019.
Ouais.
Quand je rentre en métropole, où là je structure un peu plus parce qu'on a décidé de vivre en van quand on est rentré.
Okay.
Donc qui disait van disait bah, plus trop de. Moi j'étais très attachée à un club d'athlétisme donc que j'avais à La Réunion, que j'avais avant. Bah, j'ai toujours eu un club en fait, que ce soit basket ou en athlé. J'étais très rattachée à ça. Et qui dit van dit bouger partout tout le temps, donc très compliqué de se réinscrire dans un club. J'ai pris un entraîneur qui est toujours le même, en me disant il va s'adapter là où je suis, quand je travaille 50 heures semaine ou quand je travaille pas, voilà.
Ouais.
Donc c'était une bonne formule pour se lancer un peu là-dedans, dans le coaching un peu plus.
C'est Christophe Mallardet?
Ouais,
Ok.
Christophe Malardé, ouais. Et voilà. Et du coup, on commence en janvier et en août, je dis bon, je veux faire la CCC. Et ouais, je fais quand même une belle course. Enfin, pour moi, 3e, c'était quand même bien.
Oui.
Et voilà.
Et du
Sur un 100 bornes. Ouais, non, j'avais fait la Diagonale des Fous quand même l'année d'avant. je connaissais un peu l'ultra, mais.
Ouais, donc voilà. T'es quand même allé assez, relativement vite. T'as perçu que t'avais quand même un potentiel sur des distances relativement longues, malgré ta faible expérience. Et t'as finalement très vite fait la diag. Donc très vite.
Ouais, en fait, c'était un peu le. C'est un peu. Ça s'est fait de fil en aiguille, mais comme on est resté 3 ans à La Réunion, bah, en fait, j'ai fait Mascarenhes. L'année d'après, j'ai fait le Bourbon qui fait 110. Ouais. Et l'année d'après, j'ai dit, on finit la diag et puis on part à La Réunion. Et donc, on a fini tous les deux la diag avec mon copain.
Pas mal.
Et on est parti dans la foulée. Donc, c'était un peu le challenge. Après, la Diagonale des Fous, c'était une découverte de l'ultra. Avec du recul, j'étais pas vraiment prête mentalement à faire ça, mais physiquement d'ailleurs. Mais c'était une belle aventure. Ouais, non, c'était chouette. Et ouais, effectivement, en testant un peu toutes les distances à La Réunion, je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, là où je m'exprimais le mieux, c'était sur des distances 80, 100, 100 bornes. Ouais, 160, peut-être pas encore, mais.
Ok.
Donc voilà, c'était en faisant un peu toutes les distances que je me suis rendu compte de ça, en fait.
Et ensuite, du coup, tu rentres en métropole et c'est après la CCC que tu rentres chez. Tu changes de dimension, tu rentres dans le Team Salomon. France ou international directement?
Oui, un peu, ouais. Un peu, oui, Jean-Mi, il m'appelle le lendemain de la CCC, je pense. Ou le surlendemain. Donc voilà, moi, c'était un peu une logique parce que j'étais déjà chez Salomon un peu à La Réunion, même s'il n'y avait pas de contrat, rien. C'était une marque que j'aimais bien et que je voulais pas changer. C'est une belle famille, mondialement, j'attendais juste que Jean-Mi valide, comme c'est toujours un peu en septembre, une nouvelle recrue, et donc voilà, là j'intègre la team France cette année-là et la team inter quasiment dans la foulée. C'est un peu, c'est pas très structuré entre guillemets, ça dépend vraiment des contrats, mais non, ça devait être France à cette époque-là. Et puis 2020, il y a eu Covid,
ouais,
mais j'ai quand même réussi à faire les Golden qui m'a permis d'intégrer la team inter cette année-là. Ouais, cette année.
Ok.
Et voilà, c'est assez récent en fait, hein, 2020. En fait, 2020, c'est mon premier contrat avec Jean-Mi. Parce que j'ai pas signé en 2019, c'était l'année 2020.
Ok. Et concrètement, ça, une fois que t'as pu signer ce contrat, tu sens que ça a changé quelque chose au niveau de soit ta pratique, aussi au niveau de ce que tu pouvais représenter sur les courses par rapport aux autres concurrentes. Concrètement, ça a changé quoi? Pour toi, si ça a changé quelque chose, cette entrée dans un gros team, on va dire.
Franchement, ça a rien changé.
Ok.
Pour moi, c'était juste tout pareil, quoi. J'avais de nouveaux copains. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. J'avais vraiment une nouvelle team. Effectivement, Jean-Mi, c'est plus un team manager, donc tu vois qu'il a l'habitude de gérer des grands athlètes comme toi, comme Thibaut, des carrières longues. Mais moi, ça me changeait pas grand chose. Je fais confiance, quoi, un peu à tout le monde qui m'entoure. Donc, franchement, j'étais juste trop contente de rencontrer les gars, parce que du coup, au début, j'étais la seule fille.
Ouais.
Et voilà. Et trop bien. On va s'amuser.
Ok. Et du coup, comment t'arrives à articuler avec ton métier de kiné, qui, je sais que tu prenais pas mal, enfin, de dispo, où il y a des moments, des grosses périodes où tu travailles pas, d'autres peut-être où tu travailles un peu plus. Comment ça a évolué aussi au fil du temps?
Eh ben, ça, c'est pareil, ça a été assez progressif. En fait, ça a pas changé grand chose. Quand je suis rentrée en France, j'ai continué à bosser. Surtout en tant que remplaçant. Donc en fait, quand t'es remplaçant, c'est toi, quand tu remplaces les gens, donc tu prends leur planning. Donc des fois, je me retrouvais à faire des mois à 40-50 heures semaine. Et puis par contre, si je voyais, par exemple, pour préparer la CCC, il me semble qu'un mois avant, le mois d'août, j'ai pas pris de remplacement, donc je travaillais pas, en fait.
Ok.
Et après, j'ai été assistant sur Annecy pendant 2 ans. Donc là, je gérais mon planning. Donc moi, je bossais, je me rends pas compte, en fait, quand t'es un libéral, le nombre d'heures que tu fais. Mais là, c'est vrai que moi, l'avantage, c'est que je peux gérer mon emploi du temps comme je veux. Donc voilà, j'arrive à prendre des mois de vacances en prenant des remplaçants, pour le coup, et à me faire des grosses semaines de boulot quand je suis en récup, quoi.
Ça, c'est un rythme que t'as envie de conserver? C'est un métier qui te passionne, que t'aimes faire?
Ouais, c'est un bon équilibre, ouais. Ouais, c'est un métier que j'aime bien, que je suis quand même clairement en train de réduire là un petit peu depuis l'année dernière, enfin depuis la fin de l'année, depuis le début de l'année 2020, pour moins m'éparpiller et essayer de plus me concentrer sur ce que je fais vraiment. Donc là, je me suis rapprochée un peu de la maison. Je travaille plus à Annecy
D'accord.
pour faire moins de trajets aussi. Et voilà, mais oui, j'ai encore envie de le conserver pour garder un équilibre, en fait, garder un équilibre entre ma vie privée, ma vie sportive et professionnelle.
Justement, comment tu vois un peu la. Est-ce que tu fonctionnes dans une logique de carrière? Est-ce qu'on voit aussi au niveau de tes courses et de ta. Comment tu enchaînes au fur et à mesure des années que depuis. T'es revenu de la Réunion, il y a quand même une certaine structuration. Comment tu t'anticipes ça et est-ce que tu as vraiment une logique de carrière de haut niveau pour durer le plus longtemps possible?
Je dirais que j'ai pas vraiment de logique, j'anticipe pas beaucoup, mais au final ça se fait un peu naturellement, enfin en fonction des opportunités. Effectivement, moi mon souhait premier c'est de courir longtemps, tu vois. J'ai pas envie de faire 2 ans à haut niveau où est-ce qu'on veut tout gagner, courir partout dans le monde, et que dans 2 ans je dis ciao, j'en peux plus, je suis cramée, je suis blessée, je suis KO quoi. Donc c'était un peu mon premier rendez-vous avec Jean-Mi, c'était ça. C'était écoute Jean-Mi, moi si tu veux, mais par contre je vais pas faire un ultra tous les mois, je vais pas enfin, tu m'oublies là-dessus, moi je veux courir longtemps et je veux perdurer quoi. Et c'est vrai que j'avais vu un peu de loin, hein, mais comme tout le monde, pas mal de filles chez Salomon qui ont un peu explosé en plein vol. Donc c'était vraiment ma première. Ouais, j'aurais pas signé s'il m'avait dit bah ouais, t'es obligé de faire ça, ça, ça. Mais en fait, c'est complètement l'inverse quoi chez Salomon. C'est-à-dire que tu as un nombre maximum de courses et en ultra, c'est 2 ultras maximum par an quoi.
Ah, ok, super.
Donc
Intéressant.
après, si tu veux en faire plus, tu peux, hein, ils seront toujours contents. Mais moi, je préfère performer sur 2 ultras par an que en louper 4, quoi, tu vois.
Ouais, monsieur.
Et c'est un peu l'idée, c'est aussi un peu mes valeurs santé. Bah voilà, quand tu kinés, forcément, hein, tu écoutes ton corps peut-être un peu plus que les autres. Et voilà, et moi je vois pas comment c'est possible d'enchaîner les ultras tous les mois. Enfin, clairement, c'est pour moi encore année, enfin, une énigme. Et voilà, et c'est un peu la course au kilomètre, c'est un peu la course aux ultras, je trouve, et j'ai pas envie de, bah ouais, de montrer ça. C'est très bien qu'il y en ait qui le fassent, mais c'est pas ma vision du sport santé en général, quoi.
Et justement, du coup, ton premier ultra de l'année, ce sera la Western.
Ouais.
Avant d'en parler plus spécifiquement, et du coup, est-ce qu'il y en aura un deuxième? Est-ce que tu vas tenter peut-être 200 miles cette année?
Peut-être. Pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire. Ce sera pas en octobre de toute façon, parce qu'après la Western, c'est quand même apparemment compliqué de récupérer. Et moi, le 100 miles, c'est quand même encore un format qui me coûte beaucoup en énergie post-course. J'ai mis très longtemps à récupérer l'UTMB.
Mentalement et
Et
physiquement, tu veux
voilà.
dire?
Ouais, bah surtout mentalement et puis bah physiquement, pas de blessure ou de voilà, ou de mal aux jambes quand on peut dire, mais intérieurement quoi, articulairement, hormonalement parlant, enfin il y a plein de choses qui se passent énergétiquement, le corps il prend cher quand on va chercher loin comme ça. Et voilà. Et puis, je pense que je suis pas encore adaptée vraiment à ce genre de format, comme pourrait Courtenay, par exemple. Ou même François, il m'a dit, hein, il faut plusieurs années pour s'adapter à ce genre de format. Et ouais, pour l'instant, moi, c'est encore un format que je trouve très dur. Un 160 par rapport à un 100 bornes, pour moi, c'est encore, il y a un monde d'écart, quoi.
Là, c'est intéressant.
Donc effectivement, j'aimerais bien faire 200 miles cette année parce que j'adorerais retourner sur la Diagonale des Fous, que c'est les 30 ans de la Diag, que bah voilà, maintenant tu connais un peu l'histoire que j'ai à La Réunion, j'aimerais vraiment vraiment y retourner, mais voilà, si mon corps veut pas, bah je veux pas forcer quoi.
Ok.
J'irai sur une distance plus courte.
Ok. Et donc, du coup, à la Western, donc, ça va être ton premier gros objectif. Pourquoi déjà cette course, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi?
Un mythe un peu.
Ouais.
Non, la Western, ouais, c'est quand même une vieille course de trail. À l'époque, je pense qu'on n'appelait même pas ça du trail. Et c'est une course mythique. Et j'ai envie d'aller voir un peu ailleurs déjà que la compétition et la France entre guillemets avec l'UTMB. Et j'ai toujours voulu aller courir aux États-Unis. Je pensais à un moment donné faire le TNF San Francisco, peut-être que je le ferais aussi un jour. Et mon frère a vécu là-bas en Californie pendant 3 ans, où j'étais allée le voir pas mal.
Okay.
Et voilà, je m'étais dit, si j'y retourne, ce sera pour faire une course. Et donc, voilà.
Okay.
Et donc, ça colle que la Western, c'est un joli 100 miles, et que bah, quand tu fais pas 10 kills ou 100 miles dans l'année, il faut bien les choisir, quoi.
Oui, c'est clair. Et du coup, tu commences à... Parce que la Western, c'est quand même une prépa assez particulière. Peut-être que tu n'as pas eu trop l'habitude ces derniers temps de refaire beaucoup de plats, beaucoup de vitesse. Ça va peut-être te rappeler des bons souvenirs de la piste et de la route.
Ouais.
Comment concrètement ça va s'organiser, ta prépa, et puis combien de temps t'as prévu d'aller aux États-Unis, d'y aller un petit peu avant, rester un peu après, etc.
Ouais, bah du coup, la prépa, j'ai mis longtemps à sortir de l'hiver, là, en fait. Donc, j'ai galéré un peu à me remettre à la course à pied cette année.
Ok.
Dû, je pense, encore à des... Ça peut paraître un peu bête, hein, mais un UTMB que j'ai mis très longtemps à récupérer. Donc, tu vois, ça peut prendre vite 6 mois.
Ouais,
et effectivement,
ouais.
Quand tu remets les skis, tu sens pas trop passer. Et puis, quand tu remets les baskets, bah, ouais, compliqué. Compliqué. Donc, voilà, on a fait un joli stage quand même au Cap-Vert avec Salomon.
Ouais.
Même si c'était pas roulant, on avait la chaleur. Et là, déjà, j'ai commencé à pouvoir me projeter. Après, c'est une course aussi que... J'essaye de prendre beaucoup d'expérience de par mes collègues de CIM. Courtney, qui l'a déjà gagné. J'ai croisé Beth, qui a explosé la course l'année dernière sur une autre planète. Donc, je prends beaucoup d'expérience des autres. François aussi, qui est allé plusieurs fois. En fait, ils y sont tous allés plusieurs fois avant de performer sur cette course. Donc, j'essaye de prendre un peu toutes les infos et tous les tips un peu de... d'autres athlètes parce que c'est clairement compliqué de s'entraîner. Enfin, déjà, j'avais du mal à remettre les baskets et en plus, j'essaie de me projeter mais différemment que ce que je peux faire d'habitude. Et puis voilà, là, ça tombe bien, il y a une bonne vague de chaleur en France.
Ouais.
Donc, j'ai fait quelques séances en plein milieu de l'après-midi, effectivement, plutôt roulante. Après, faut pas oublier que la Western, c'est un ultra. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'effectivement, hein, c'est bien de courir vite sur le plat, mais ça reste un ultra.
Ouais.
Et voilà, ça passe aussi par des longues balades en montagne, à découvrir des nouveaux endroits, parce que moi, j'aime bien faire mes sorties longues dans des endroits différents. Et puis, j'ai fait pas mal de vélo aussi. La reprise à pied était un peu difficile.
Ouais.
J'ai beaucoup basculé sur le vélo depuis ce printemps. Voilà. Des longues sorties à vélo, encore prévues. Et puis, donc, je pars aux États-Unis début juin, là, le 2 juin. Et là, je vais me recaler un bloc de recos. Donc là, du coup, à pied, sortie longue en arrivant. Trois semaines avant, en général, j'essaie de faire un bloc dans la chaleur. Et puis là-bas, bah, avec les autres athlètes, on va rester 3 semaines avant la course ensemble, dont certains qui ont déjà fait la Western. Donc, toujours pareil, l'idée, c'est vraiment d'échanger sur cette course. Et puis voilà, et après je reste jusqu'à la Hard Rock aux États-Unis pour aller voir aussi cette autre course mythique.
Ok, top.
Qui me fait envie forcément, mais là c'est plus compliqué d'avoir un dossard à la Hard Rock.
Ouais. Bon, mais top, ça promet d'être bien sympa. Je voulais qu'on parle un petit peu, enfin rapidement, de l'équipe de France. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Je sais que je sais plus si avec, enfin bref, j'en avais discuté avec certaines personnes, mais on t'avait contacté l'an dernier un petit peu pour les mondiaux. C'est quoi ta vision? Du coup, t'as quand même une logique de club, de ce que tu me disais tout à l'heure, donc une logique un peu fédée.
Oui, j'y ai pensé. Effectivement, l'année dernière, j'aurais dû faire partie de l'équipe.
Ok.
Mais les mondiaux ont été annulés.
Ouais.
Voilà. Cette année, c'était compliqué de me mettre au programme parce que les Europes sont début juillet, donc de toute manière, j'avais prévu d'aller à la Western.
Ouais.
Voilà, c'était non négociable. Et après, mais après voilà, j'ai quand même envie de refaire un. En fait, le problème, c'est quand dans les mondiaux, il n'y a pas d'ultra forcément. C'est des courses de 80 bornes, donc c'est encore un format où je pense que je peux être performante, mais je m'étais plus projetée voilà, sur deux ultras cette année. La Thaïlande, on sait très bien, mais il y a des valeurs qui me.
Ouais.
Enfin voilà, je trouve ça un peu bête de faire des mondiaux de trail en Thaïlande alors que c'est pas du tout forcément une terre de trail.
Je suis d'accord.
Et voilà, au niveau. Bah, pourquoi ça a été annulé plusieurs années, c'est aussi parce que bah, là-bas, c'est quand même pas les mêmes conditions sanitaires. On était en période de Covid, ils continuaient à le faire là-bas. Donc, je veux bien qu'il y ait d'autres motivations, mais ça avait pas trop de sens pour moi, en fait. Et puis voilà, donc quand t'es pas 100% motivé pour un projet comme l'équipe de France, c'est quand même compliqué parce qu'il faut quand même jouer des sélections. Donc, ouais. faut être à 100% dans ce projet-là, sinon.
Donc, c'est vraiment ta pratique en elle-même et les formats qui t'attirent et ce que t'as envie de faire qui prennent le pas sur, entre guillemets, uniquement le fait de porter le maillot de l'équipe de France. La symbolique de porter
ouais.
le maillot, ouais, ok.
Ouais, j'ai pas cette. Je l'aurais peut-être un jour, hein, je dis pas jamais, parce que ça, à mon avis, ça va peut-être me donner envie. Mais oui, j'ai pas, enfin, on me dit, allez, te rends compte, porter le maillot de l'équipe de France. Ouais, c'est génial, mais si c'est pas mon projet à la base, c'est pas forcément, je serais plus emballée par une belle course, un joli format, une belle équipe. Par exemple, l'année prochaine, je crois que c'est en Autriche, à Innsbruck.
Ouais,
là, ça me dit bien. Ça a plus de sens pour moi, c'est moins loin. Je n'ai pas regardé les dates, mais.
Ça serait début juin.
Début juin ?
Ouais, non, a priori. La date officielle n'est pas sortie, ouais. Mais ce serait début juin.
Bah, c'est quelque chose qui peut être carrément. Voilà,
envisageable.
Carrément bien dans le sens où, au début juin, bah voilà, après j'ai le temps de faire mes ultras tranquillement. Il y a ça aussi, il faut que ce soit quand même bien placé pour pas que ça t'empiète sur une saison que t'as quand même envie de faire des belles aventures d'ultra vis-à-vis aussi des sponsors, hein, faut pas se leurrer,
ouais.
C'est quand même eux qui nous permettent aussi de vivre. Donc si tu vas leur dire que tu vas faire un championnat du monde à Tatawin-les-Bains qui a pas de sens pour toi. Bon, arriver à le rendre, quoi.
Ouais. Et j'avais une, je retourne un peu en arrière, mais j'avais une question sur un peu ton changement de statut. Tu disais que, tu vois, le fait de rentrer dans le Team Salomon International, ça n'avait pas changé grand-chose. Mais est-ce que tu sens quand même qu'au niveau du regard des, surtout extérieur, sur les courses, tu sens que tu es un peu plus attendu, tu sens qu'il y a quand même plus de sollicitations. Comment tu vis avec ça et est-ce que tu le ressens?
Je ressens pas forcément, mais je pense qu'inconsciemment oui quand même. Effectivement, l'UTMB c'est quand même enfin j'en avais pas du tout conscience hein, avant, mais c'est quand même un gros événement
oui.
médiatiquement. Et quand tu performes sur l'UTMB comme j'ai pu le faire l'année dernière, ouais il y a quand même des changements d'image entre guillemets. Après moi j'ai de la chance d'être très bien entourée par la team Salomon, Jean-Michel qui filtre un peu, qui voilà, donc j'ai effectivement eu des sollicitations, mais c'était très raisonnable et très bienveillant, donc je l'ai pas mal vécu du tout.
Ok.
Et après voilà, comme j'ai mon boulot à côté, j'arrive à faire la part des choses en me disant bah voilà, moi j'ai pas que le trail pour vivre, donc je veux bien vivre une partie de ma vie dans cette expérience là. Mais pas dépend d'en être complètement dépendante.
Okay.
Donc ça me permet vraiment de sélectionner mes partenaires, de faire les choses bien, quoi, de sélectionner les partenaires qui me plaisent, qui me correspondent, qui ont les mêmes valeurs que moi. Et comme ça, ça se passe bien.
Du coup, tu as aussi une autre passion dans la vie que tu mets de plus en plus en avant sur les réseaux, c'est le yoga. J'ai vu que tu avais passé des. Enfin, t'es formé là-dedans, je crois. Comment c'est venu et puis comment ça. Ça t'aide aussi dans ton équilibre au quotidien.
Et bien, le yoga, ça fait bien longtemps quand même que j'en fais. Je dirais une petite dizaine d'années aussi maintenant.
Okay.
J'ai beaucoup pratiqué à La Réunion parce que j'avais plus de temps. Et ça faisait partie de mes projets voilà, de faire une formation pour devenir prof. C'était un peu avant le confinement. Donc le confinement a un peu retardé les choses parce que c'est très en lien entre, en fait, ça rassemble un peu tout entre mon métier de kiné où bah, c'est beaucoup le mouvement, des exercices, des postures. Voilà, ça se rejoint quand même beaucoup entre ma pratique du sport. Oui. Et voilà, et le yoga qui est une forme de passion. Donc en fait, ça regroupait un peu tout en une chose, et c'est quelque chose que je voulais développer. Je savais pas quand ni comment, mais voilà. Et donc finalement, de fil en aiguille, j'ai eu un peu plus de temps là ces 6 derniers mois, donc je l'ai vachement plus développé. Et voilà, et je voulais le transmettre. Transmettre, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que bah, j'ai toujours, en basket, j'ai toujours aimé entraîner les enfants, en athlétisme aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et voilà, je trouvais ça dommage de ne pas forcément exploiter ça.
Ok.
Donc voilà, là, ça a une autre activité qui s'ajoute à tout le reste.
Top. Écoute, j'ai fait le tour de mes questions. J'ai une petite dernière. Est-ce que t'aurais une, je sais pas si t'as un petit mantra, une petite citation, un truc que t'aimes bien te répéter ou qui caractérise?
J'ai pas de mantra que je me répète comme il peut faire en préparation mentale. Mais, mais non, je dirais quoi, ouais, un peu ma devise, c'est de profiter, de se faire plaisir, de vivre au jour le jour et un peu de voir, voilà, ce qui va se passer, quoi.
Ok, ça marche. Et ben...
C'est le monde des bisounours, mais...
mais c'est bien, le monde du trail, c'est un peu le monde des bisounours, parfois.
Exactement.
Bon, mais écoute, trop bien, j'ai tout ce qu'il me faut, c'était top, merci beaucoup.
De rien.
À bientôt. Ouais, toi aussi.
Ouais,
salut. Ciao.